Madame, monsieur, chers amis, depuis des années, TV Liberté dérange. Et parce qu'elle dérange, elle subit des attaques permanentes. Censure, pression, tentative d'isolement, campagne d'asphyxie financière. La fermeture de nos comptes bancaires nous aura coûté la somme de 442 987 euros en une année. Le coup est rude et vous pouvez le constater, l'adversaire ne laisse rien au hasard. Et ma conviction est simple, à l'approche des grandes échéances de 2027, certains veulent que les voix libres, les voix discordantes, les voix de la colère soient réduites au silence. Ils rêvent d'un retour du débat public sous contrôle, d'une information uniforme, d'une pensée unique sans contradiction, alors ils utilisent toutes les violences contre ceux qui osent briser l'omerta. Mais TV Liberté possède une force que beaucoup nous envient, son indépendance absolue. Cette indépendance est notre bouclier, elle est notre forteresse, elle est notre totem d'immunité, si vous voyez l'image. Nous ne dépendons ni de l'État, ni des grands groupes financiers, ni des puissances d'argent, ni des banques, ni d'un oligarque fantasque. Nous ne dépendons que de vous. Voilà pourquoi votre don est essentiel. Chaque donateur est bien plus qu'un soutien pour TVL. Il est surtout un résistant, il est surtout un combattant qui contribue à armer TV Liberté pour les batailles à venir. Aujourd'hui, plus que jamais, la liberté a besoin de moyens, la liberté a besoin de vous. Alors, soutenez TV Liberté, parce qu'une chaîne indépendante ne vit que par la mobilisation de ceux qui refusent de se taire. Et parce qu'une liberté qui ne se défend pas finit toujours par disparaître. TV Liberté n'est pas comme les autres. Vous n'êtes pas comme les autres.
Madame, monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, à peine signé, le protocole cadre des négociations de paix États-Unis-Iran vacille et est d'ores et déjà saboté de toutes parts au Royaume-Uni. Nouveau procès de l'immigration avec un rapport accablant sur le réseau pakistanais de violeurs de petites filles blanches. Et enfin, nous reviendrons en France sur un sujet tout aussi glauque, le scandale du périscolaire parisien et les défaillances des juges, des policiers et des politiques. Les États-Unis et l'Iran ont donc signé un accord cadre de négociation de paix de 60 jours, mais à peine signé, la première rencontre a été reportée, le détroit d'Ormuz à peine rouvert a été refermé, tandis qu'Israël continue d'attaquer le Liban. Nicolas de Lamberterie.
À la recherche du record du monde du sabotage d'un accord de paix, les livres d'histoire retiendront peut-être ce vendredi 19 juin 2026. Au terme de la guerre américano-israélo-iranienne de début 2026, un accord cadre a été signé par le président américain Donald Trump ce mercredi soir à Versailles, en pleine réunion du G7. Cet accord prévoit une période de négociation de paix de 60 jours, une cessation des hostilités sur tous les fronts, Liban inclus, un retrait israélien du Sud-Liban, une réouverture temporaire sans droit de passage du détroit d'Ormuz. À terme, cet accord a vocation à lever les sanctions contre l'Iran et mettre en place un fonds d'investissement pour la reconstruction et le développement de l'Iran à hauteur de 300 milliards de dollars. Par ailleurs, une future administration conjointe par l'Iran et Oman du détroit d'Ormuz, incluant très vraisemblablement la mise en place de droits de passage. À peine signé, l'accord a été très vivement critiqué par Israël, obligeant le vice-président américain J.D. Vance à monter au créneau.
Ce que je veux dire, et cela me dérange, c'est que certains membres du cabinet de Bibi ont publiquement critiqué l'accord et d'une certaine manière se sont attaqués personnellement au président des États-Unis. Mon message pour eux sera le suivant. Donald Trump est le seul chef d'État dans le monde entier qui est sympathisant de l'État d'Israël à cet instant précis. Et il se trouve qu'il est le chef d'État de la superpuissance de ce monde. Si j'étais membre de gouvernement, je n'attaquerais pas le dernier allié puissant qu'il me reste en ce monde.
Mais Mais de toute évidence, les avertissements de J.D. Vance n'ont pas suffi. On a appris dans la nuit de jeudi à vendredi que le déplacement de Vance en Suisse pour rencontrer les négociateurs iraniens était annulé. Ce matin, contrairement au principe énoncé par l'accord cadre, Israël poursuivait ses bombardements du Liban. Et le détroit d'Ormuz, où la circulation était redevenue libre ce jeudi, se voyait de nouveau fermé par les gardiens de la révolution iranienne en raison de la poursuite des attaques israéliennes contre le Liban. Ce vendredi après-midi, un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah était annoncé, mais dans la foulée, certains officiels israéliens expliquaient déjà que le cessez-le-feu ne signifie pas cesser le feu, mais simplement ne pas encore faire escalader le conflit. Pour le dire simplement, la foire d'empoigne et le blocage de l'économie mondiale vont pouvoir continuer. Par ailleurs, selon l'iranologue Morgan Lotz, le point concernant le retrait des forces américaines n'est absolument pas clair et on peut donc redouter une future reprise des attaques américaines.
Le mémorandum d'entente signé entre Washington et Téhéran laisse-t-il vraiment présager une paix durable à l'avenir dans le Moyen-Orient ? Les observateurs attentifs auront remarqué que plusieurs paragraphes posent problème. Tout d'abord le paragraphe numéro 4, qui stipule que les États-Unis s'engagent à retirer leurs forces des zones proches de l'Iran dans un délai d'un mois suivant la conclusion d'un accord définitif. Donc les États-Unis ne vont pas retirer immédiatement leurs forces de la région. D'ailleurs, ces forces états-uniennes auraient dû être retirées immédiatement, dans les 30 jours suivant la signature du protocole d'accord et avant le début des 60 derniers jours de négociations, permettant ainsi d'éviter que les négociations en vue d'un accord définitif ne se déroulent sous la menace d'une intervention militaire états-unienne contre l'Iran. De plus, ce texte ne précise pas ce que l'on entend par les zones proches de l'Iran. En effet, les États-Unis vont-ils se retirer de l'autre côté du golfe Persique ? Où ils sont déjà bien installés, vont-ils se retirer avec leur flotte dans l'océan Indien ou vont-ils définitivement rentrer chez eux ? La question n'est pas résolue. Ensuite, la nature de ces forces et des équipements qui seront retirés. Est-ce que ce sont les matériaux défensifs comme les batteries de missiles anti-aériennes Patriot ou est-ce que ce sont les matériaux offensifs comme les missiles Tomahawk ? Là non plus, la question n'est pas résolue. Et enfin, la définition de ces forces, c'est-à-dire si ce retrait concerne l'ensemble des forces états-uniennes de la région ou seulement celles qui ont été déployées dans le cadre de l'opération Fureur Épique, commencée le 28 février dernier. Là non plus, cette question n'est pas résolue. Et enfin, un problème de taille, c'est qu'aucun mécanisme n'est prévu pour garantir l'application de cette clause.
Signalons enfin, pour l'anecdote, les insignifiants dirigeants français, puisque la diplomatie française a jugé utile de faire mine d'avoir une position dans cette affaire. Le ministre des Affaires étrangères Barrot a déclaré que la France mettrait son veto à la levée des sanctions contre l'Iran, prises à l'échelle des Nations Unies, tant que Paris ne serait pas satisfait sur le volet des concessions nucléaires et militaires de Téhéran. Mais étant donné que la France est de nos jours le seul État nucléarisé du monde, dont à peu près n'importe qui ose malgré tout se moquer ouvertement, il est peu probable que quiconque aille demander son avis à Paris dans le processus actuellement en cours.
Les fleuves de sang de l'autre côté de la Manche, un rapport du député Rupert Love, fait état d'un scandale massif de viols sur des jeunes filles blanches par des immigrés pakistanais au Royaume-Uni, des crimes largement cachés par la presse anglaise et française.
L'État britannique est désormais plus enclin à emprisonner quelqu'un pour une publication sur les réseaux sociaux que pour un viol. Ce n'est pas justice. Ce n'est pas proportionné. Ce n'est certainement pas le propre d'un pays libre.
Un État dur avec les natifs et leur liberté d'expression est faible avec les criminels étrangers. Un nouveau rapport met en lumière les abominations de l'immigration au Royaume-Uni. Mardi, le député britannique Rupert Love, fondateur de Restore Britain et ancien élu de Reform UK, a publié un rapport d'enquête privé de 219 pages sur le scandale des « grooming gangs ». Ces réseaux organisés ont exploité sexuellement des milliers de jeunes filles, voire des dizaines de milliers, principalement blanches et britanniques, entre les années 1990 et 2010, et selon le document, bien au-delà. Financé par plus de 764 000 livres sterling récoltés auprès de 22 000 contributeurs, ce rapport compile témoignages de victimes, lanceurs d'alerte, décisions de justice et analyses d'enquêtes antérieures. Les grooming gangs désignent des groupes d'hommes majoritairement d'origine pakistanaise et de confession musulmane qui ciblaient des filles souvent issues de milieux défavorisés ou placées en foyer. Le mode opératoire était similaire d'une ville à l'autre. Approche progressive avec cadeaux, alcool et drogue, puis viol collectif, trafic, chantage via enregistrement, violence et grossesse forcée. Des affaires emblématiques avaient déjà été révélées à Rotherham, avec environ 1400 victimes entre 1997 et 2013, selon un rapport de 2014. Mais également, les scandales à Rochdale, Oxford ou Telford ont révélé un phénomène plus large. Le rapport Love affirme que des activités similaires ont touché au moins 149 zones administratives du pays, soit près de 40% du territoire britannique. Le député met en cause l'ensemble de la caste médiatico-politique de son pays.
Et cela implique une défaillance de l'establishment britannique. Et par establishment britannique, j'entends évidemment les ministres, la fonction publique, les collectivités locales, les services sociaux, la police, le système judiciaire, le NHS et les médias, censés être les garants de la transparence pour le peuple britannique face à ce genre de scandale, mais qui ont lamentablement échoué dans cette mission.
Les enquêtes officielles, comme celle de Rotherham ou l'audit de Baroness Casey, ont confirmé une surreprésentation d'hommes d'origine pakistanaise parmi les auteurs. Le rapport privé va plus loin en estimant à au moins 250 000 le nombre de victimes depuis les années 1950, par extrapolation des données locales. Le document pointe du doigt un racisme anti-blanc et des justifications culturelles ou religieuses chez certains auteurs, tout en soulignant la loyauté communautaire clanique. Le cœur du scandale réside dans les défaillances systématiques de la police du royaume. Celle-ci a souvent ignoré les signalements, criminalisé les victimes ou détruit des preuves. Les services sociaux plaçaient parfois les enfants dans des environnements à risque. Les élus locaux, notamment travaillistes, dans plusieurs bastions, auraient minimisé les faits par peur d'être accusés de racisme ou de compromettre leurs relations communautaires. Le NHS, le système de santé britannique, enregistrait blessures et grossesses sans alerter. Ce déni, documenté dans de multiples rapports officiels, a permis au réseau de prospérer pendant des décennies. Les lanceurs d'alerte qui ont travaillé sur le sujet ont pour leur part été décrédibilisés. Le rapport, bien que privé et sans pouvoir judiciaire contraignant, a été relayé par Elon Musk et dans une moindre mesure par Éric Zemmour en France, qui y voit une illustration des risques de l'immigration. Le gouvernement travailliste a lui lancé une enquête nationale en décembre 2025 et l'opération Bicomport de la National Crime Agency réexamine des milliers de dossiers classés. Le rapport de Rupert Love formule des recommandations, enregistrement systématique des données ethno-religieuses des délinquants, expulsion des étrangers condamnés, déchéance de la nationalité pour les binationaux, peine plus sévère et responsabilisation des institutions. Il critique tant le Labour, principalement accusé de dissimulation, que les conservateurs, qui ont manqué de transparence. Ce scandale révèle des failles profondes dans le système de cohabitation des communautés au Royaume-Uni, où la priorité est donnée en façade à la cohésion sociale perçue, plus que sur la protection des enfants les plus vulnérables, et particulièrement des Blancs. Au-delà de l'exécutif et de la classe politique, il convient de noter que jamais le roi Charles III ne s'est exprimé sur ces scandales. Sans doute Sa Majesté était-elle trop occupée à enrober des dates pour le Ramadan.
Nouvelle révélation sur le scandale du périscolaire parisien. Un des nombreux agents mis en cause avait des antécédents. Explication Renaud de Bourleuf.
Inaction des juges, un prédateur laissé dans la nature et mis en contact avec les enfants. De quoi rappeler la tragique affaire Liana, mais cette fois il s'agit du scandale du périscolaire parisien. Selon une information du Monde dévoilée mercredi, un des animateurs mis en examen pour agression sexuelle au sein de l'école maternelle Saint-Dominique dans le 7e arrondissement a été recruté par la mairie de Paris en 2025 alors qu'il faisait déjà l'objet d'une plainte pour inceste. La plainte déposée par son propre fils remontait à plus d'un an. Ce suspect est accusé par 9 enfants de faits de viol, d'agression sexuelle, d'atteinte à l'intimité de la vie privée à caractère sexuel et d'exhibition sexuelle. Il a été mis en examen pour agression sexuelle sur 7 de ses enfants et exhibition sexuelle sur 2 autres enfants. La ville de Paris a assuré ne pas être au courant de la plainte dont l'individu de nationalité camerounaise faisait l'objet au moment de son recrutement. L'explication avancée, la plainte n'avait abouti à aucun jugement et aucune condamnation. De quoi se demander comment cet individu pouvait se promener librement alors que son fils avait porté plainte pour des faits plutôt sérieux, de nombreuses agressions sexuelles et une tentative de viol par pénétration anale à l'âge de 7 ans. Le suspect avait été entendu en audition libre. À côté de cette réactivité contestable des forces de police, c'est le rôle des juges qui a été mis en lumière au cours de la semaine. Mardi, un premier verdict a été rendu dans l'affaire du périscolaire parisien. Le procès concerne l'école Titon dans le 11e arrondissement. Un individu poursuivi pour harcèlement sexuel sur 9 fillettes de CM1 et agression sexuelle sur 3 d'entre elles a été relaxé par le tribunal correctionnel. Les juges ont dénoncé des comportements inappropriés. Pour être plus précis, il s'agissait de toucher la poitrine des filles ou de leur faire des câlins. Il leur racontait aussi des histoires de viol et aurait fait part à une enfant de son souhait de l'embrasser. Pour les juges, ces comportements inappropriés ne constituent pas une infraction pénale. Le lendemain, mercredi, le parquet a fait appel. Les procès vont continuer dans ces affaires pour lesquelles la mairie de Paris a été totalement dépassée, si ce n'est complice, entre absence de prise en compte de signalement et recrutement à la légère. Reste à savoir si les choses vont changer alors qu'un élu municipal a annoncé un nouveau combat à côté de la lutte féministe. Le combat, je cite, enfantiste.
Ces violences ont une racine commune, le patriarcat. Les associations féministes et enfantistes continuent de se mobiliser sans relâche.
La photo patriarcat, Lucie Castet a peut-être oublié que de 2014 à 2026, c'était une femme qui menait la mairie de Paris, mais aussi que 7 magistrats sur 10 sont des femmes. Pas la meilleure représentation du patriarcat, donc. De plus, c'est dès le début de ce mandat d'Anne Hidalgo que les signalements ont eu lieu. En 2015, Emmanuel Grégoire, alors maire adjoint, assurait que la situation était sous contrôle.
Toutes les mesures sont prises au moment du recrutement. Lorsque des actes inadmissibles, ces sujets sont traités avec rapidité, avec transparence.
La prochaine trouvaille sera peut-être de recruter des agents du planning familial, comme le député LFI Mathilde Panot l'a sérieusement suggéré.
Familial non seulement accompagne des centaines de milliers de personnes dans notre pays, mais c'est aussi le planning familial qui fait par exemple des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Je rappelle que ces 3 séances obligatoires par an datent d'une loi de 2001, qu'ils sont sans cesse sous la menace notamment de la droite et de l'extrême droite, qui ne cesse de faire pression sur celles qui font justement ces cours d'éducation à la sexualité et que ces cours permettent d'apprendre aux enfants ce que c'est le consentement, que personne n'a le droit de toucher leur corps et que leur corps leur appartient.
Le planning familial pourrait ainsi déballer sa propagande et dire aux enfants qui n'ont pas été avortés qu'ils peuvent changer de sexe et donc se faire mutiler.
Passons à présent à l'actualité en bref en France.
Liana, l'horreur continue, mais le président Macron défend les responsables. Jeudi, les résultats de l'autopsie de la fille de 11 ans ont été rendus publics. Elle a été violée avant d'être tuée. L'ADN du suspect, Jérôme Barella, a été retrouvé sur son corps. Alors qu'il est mis en examen pour enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans, les faits vont être requalifiés. Il collectionne déjà plusieurs plaintes pour viol et agression sexuelle sur mineurs. Le sujet est évoqué le soir même lors de l'entretien télévisé d'Emmanuel Macron sur France 2.
Il ne faut pas jeter ni nos policiers, ni nos gendarmes, ni nos magistrats comme ça a été fait dans le débat public.
Des agents qui inspirent tout de même moins confiance alors que le criminel était dans la nature malgré plusieurs plaintes à son actif. Viol, violence et dégradation. La fête de la musique, lancée par le pédosympathisant Jacques Lang et devenue une référence pour tous les chiquiers politiques, devrait une nouvelle fois être une occasion de chaos. Dans une note adressée au préfet, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez met en garde contre un risque élevé de violence urbaine amplifié par la Coupe du Monde de football. Il rappelle les graves incidents survenus lors de la victoire du PSG en Ligue des Champions le 30 mai. La préfecture de police de Paris évoque déjà des appels à dégradation sur les réseaux sociaux. Le ministère demande une vigilance maximale, contrôle des flux, sécurisation des transports, évacuation des déchets pouvant servir de projectiles et déploiement visible de forces de police, y compris sentinelles. Les fortes chaleurs ont déjà poussé plusieurs agglomérations à annuler les festivités prévues. Côté politique, le préfet de police de Paris, soutenu par l'exécutif, a fait interdire un concert organisé par LFI avec des têtes d'affiches anti-françaises comme le rappeur Médine et le collectif Adama. Et cela au nom de l'ordre public. Pour les mélenchonistes qui réclament sans cesse l'annulation des événements nationalistes comme le comité du 9 mai, c'est un peu l'arroseur arrosé. La CGT rend les armes avant même le début de la bataille. La CGT Renault a vivement protesté jeudi contre les 2 projets de partenariat avec le groupe de défense Thales présentés au salon Eurosatory. Le constructeur automobile prévoit de produire des véhicules multimissions servant de poste de commandement et de fabriquer en série dès 2027 le drone explosif Toutatis. Pour le syndicat, ces orientations militaires, je cite, « choquent de nombreux salariés » qui sont entrés chez Renault pour fabriquer des voitures, pas des armes. Problème, les voitures ne se fabriquent plus chez nous. La CGT conteste également le discours de la direction affirmant un plein soutien des salariés et dénonce une communication tardive des projets. Elle s'inquiète particulièrement du drone Toutatis, destiné prioritairement à l'export selon Thales, alors que la direction a évoqué en interne des contrats uniquement avec l'armée française. Ce bras de fer intervient après un premier projet de drone avec Turgis Gaillard au Mans. Plus que quelques mois pour gérer ses comptes avant une nouvelle taxe, alors qu'en 2027, une imposition de holding va entrer en vigueur, de nombreux contribuables commencent à faire le ménage. En effet, une nouvelle taxe de 20%, introduite par la loi de finances pour 2026, cible les actifs somptuaires détenus dans certaines holdings patrimoniales soumises à l'impôt sur les sociétés. Concrètement, ces actifs somptuaires peuvent être des objets précieux ou une résidence secondaire. Et fiscalement, il pouvait être plus intéressant de les posséder via une holding. Désormais, de nombreux propriétaires viennent arracher leur propre appartement à une société.
L'actualité internationale en bref.
La Russie et la Corée du Nord se rapprochent à partir de ce vendredi. Une passerelle reliant le port russe de Kassan et la ville nord-coréenne de Tumangang doit permettre d'intensifier les échanges commerciaux entre Moscou et Pyongyang. C'est le premier pont routier entre les deux pays qui partagent une frontière de 19 km en bordure de mer du Japon. Cette construction avait été décidée 2 ans plus tôt à l'occasion de la signature de l'accord de partenariat stratégique global entre les deux pays. Les enfants tirent, les parents trinquent. Les parents de l'adolescent qui avait tué 9 élèves et un agent de sécurité dans une école de Belgrade en mai 2023 ont été condamnés jeudi. Le père écope de 14 ans de prison et la mère de 2 ans pour abus et négligence. Âgé de 13 ans au moment des faits, le garçon avait utilisé le pistolet de son père. Pénalement irresponsable, il a été placé en établissement psychiatrique. Cette nouvelle condamnation fait suite à une annulation en appel en 2025. Ces deux tueries de 2023, une seconde a eu lieu 2 jours plus tard, avaient provoqué d'importantes manifestations contre la glorification de la violence et la culture mafieuse dans les médias serbes. Malgré la circulation importante d'armes dans le pays, ce type de drame reste très rare. Balkans toujours, l'administration Trump pousse activement ses intérêts énergétiques dans la région. À Sarajevo, un méga contrat de gazoduc et de centrales thermiques a été attribué sans appel d'offres à AAFS Infrastructure and Energy, une entreprise liée à des proches de Donald Trump. Ce projet vise à remplacer le charbon par du GNL américain via un nouveau gazoduc vers le terminal croate de KRK. Malgré les réserves de Bruxelles sur sa pertinence économique et environnementale, le projet bénéficie d'un soutien transethnique rare en Bosnie. L'UE dénonce une procédure opaque et contraire aux règles d'adhésion. Les Américains ont même poussé à la démission du haut représentant Christian Schmidt et s'allie avec le leader serbe pro-russe Milorad Dodik. Des politiques qui se croient au cinéma au Mexique. Un maire est soupçonné d'avoir simulé son enlèvement contre une rançon. La femme politique aurait été forcée par des hommes armés à descendre de sa voiture. Ces derniers auraient menacé de la tuer, elle et sa famille, si elle ne payait pas 40 millions de pesos, soit environ 2 millions d'euros, en échange de sa liberté. Les ravisseurs lui auraient conseillé, dans le cas où elle ne disposerait pas de cette somme, de la prélever sur les ressources de la mairie. Elle aurait profité d'un moment d'inattention pour s'échapper. Mais les juges ont révélé des incohérences dans son histoire. Elle doit comparaître le 9 juillet pour simulation d'enlèvement.
Ce soir, tête à clash et pour le samedi politique, Élise Blaise reçoit le président de l'UPR, François Asselineau, pour revenir sur l'accord en sursis entre les États-Unis et l'Iran, le G7 et les perspectives de la présidentielle de 2027 en France. Dimanche, contre-enquête et terre de mission. Lundi, dès 7h, un zoom avec Roland Élise, spécialiste des droites nationales. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À lundi.